Bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de saluer personnellement. Dieu règne sur sa création. Dieu est le maître de l'histoire. Et la façon dont Dieu intervient dans le monde, dans notre monde, est parfois inattendue, voire incompréhensible pour nous. Sommes-nous préparés aux interventions de Dieu dans notre quotidien? Il y a une quinzaine d'années, un dimanche vers 8 heures du matin, je marchais dans les bois pour prier. Et je priais avec ardeur, car j'étais désireux d'être totalement rempli de l'Esprit de Dieu. Et pour être franc, j'espérais que Dieu m'aide également à me cacher derrière lui. Je priais avec ardeur, car 2 heures plus tard, je devais présider le culte. Alors, je ne me souviens pas si c'était la toute première fois que je présidais un culte, mais en tout cas, je ressentais vraiment le besoin que Dieu intervienne en ma faveur. J'avais prévu de retrouver mon Dieu dans les bois. En le priant et l'adorant avec ferveur, je souhaitais vraiment que Dieu intervienne et me remplisse de son esprit et de sa paix. J'en avais besoin car j'étais dans la crainte. Et ensuite, comme je suis quelqu'un d'assez prévoyant, ensuite j'avais prévu de rentrer chez moi afin de retrouver mes notes, parce qu'évidemment mes notes j'en avais depuis 2-3 semaines, je préparais tout ça, et je souhaitais les relire et les relire encore afin de bien m'en imprégner. Dieu faisait sa part et moi je faisais la mienne et tout devait bien se passer. Tout se déroulait selon mes plans. Quelle intimité avec Dieu dans ce bois. Quelle prière ardente je faisais monter avec lui. Et Dieu, en retour, me donnait la paix dont j'avais tellement besoin. Tout se déroulait selon ce que j'avais prévu jusqu'à là. Car c'était sans compter sur mon chien. Car à l'époque, j'avais un chien. Et pas n'importe quel chien. Un chien de recherche. J'étais pompier, maître chien, et mon chien était un excellent chien de travail qui était passionné par le fait de travailler pour moi. Mais j'avais peut-être raté quelque chose dans son éducation, car ce matin-là, je ne lui avais pas donné de travail à faire. C'était dimanche, je n'allais pas faire travailler mon chien le dimanche. Et surtout, j'étais venu dans ce bois avec d'autres préoccupations. J'étais venu rencontrer Dieu. Et donc cela se passait vraiment bien, comme j'avais prévu. Merci Seigneur. Jusqu'à ce que j'entende au loin mon chien m'appeler. Et mon chien m'appelle justement au moment où moi j'avais décidé de le rappeler. Car l'heure tournait et je me disais, il est temps maintenant que je rentre chez moi pour préparer cette présidence. Ça ne tombait pas bien, mais bon, je me dirige malgré tout vers mon chien. Je quitte le chemin sur lequel je marchais, je m'enfonce dans les bois. Et là, je découvre la raison pour laquelle mon chien m'appelait. Malgré le froid, malgré l'humidité de ce bois, un SDF avait passé la nuit là tout seul. Loin de tout, et mon chien, jugeant que ce comportement était anormal, me le signalait. C'est pour ça que je l'avais éduqué. Il trouvait ça anormal, donc il attirait mon attention. Dans cette situation, mes sentiments et mes pensées ont été diverses. La présidence de ce culte était vraiment très importante pour moi. Chaque minute perdue compromettait ma chance de me préparer. Et puisque ce SDF n'était pas en danger, je n'avais pas non plus d'argent à lui donner. Donc je me disais que je pouvais l'excuser, parce que mon chien était quand même un gros chien, très impressionnant, m'excuser auprès de lui et puis le laisser là. Et comme ça, moi, je pourrais rentrer chez moi pour me consacrer à mon service pour mon Dieu. Mais d'un autre côté, il me semblait percevoir que Dieu était derrière cette rencontre imprévue. Et oui, Dieu connaît et dirige toutes choses. Alors, je ne pouvais pas dire si Dieu avait expressément voulu cette rencontre ou si Dieu l'avait simplement permise. Mais en tout cas, cette rencontre n'échapperait pas à la souveraineté de Dieu. Le fait de réaliser que Dieu était derrière cela m'a aidé à me poser la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? Je ne sais pas exactement ce qu'aurait fait Jésus, mais en tout cas, je me suis dit que certainement, Jésus ne serait pas rentré tranquillement chez lui. Aussi, j'ai proposé à ce SDF de venir chez moi afin qu'il prenne une douche, car il était vraiment très sale, que je lui donne des vêtements propres, il avait à peu près la même taille que moi, et un petit déjeuner. Je lui ai juste précisé que je devais impérativement me rendre à l'église vers 10h15. Alors, je dois vous avouer que, bien que je lui ai proposé tout cela, j'aurais préféré qu'il refuse. Ouais, moi, de mon côté, j'aurais eu ma conscience pour moi, c'est bien. Et puis, j'aurais aussi eu ce temps-là que je voulais absolument consacrer à me préparer pour cette présidence. Mais il a accepté ma proposition. Donc, il m'a suivi chez moi, mais malgré tout, j'étais en paix. J'étais en paix car j'avais vraiment l'impression que Dieu conduisait toutes choses. Donc il est venu chez moi, il s'est lavé, je lui ai donné des vêtements propres, un petit déjeuner, et à l'heure convenue, il est parti. Alors, je ne m'étais pas préparé comme prévu, mais en même temps, ou peut-être même à cause de cela, la présidence en tout cas s'est déroulée dans ce que j'espérais, que Dieu soit mis en avant. Alors lorsque je me souviens de ce dimanche, je me souviens avec délice du jour où j'ai fait confiance à Dieu. Ce jour-là, Dieu est intervenu au travers d'un événement imprévu, et à cette occasion, j'ai fait le bon choix. Le choix de faire confiance à Dieu, le choix de faire les choses à la façon de Dieu. Et je me dis, oh, félicitations, j'aurais pu arborer la médaille du bon et du fidèle serviteur. Hélas, je n'ai pas que ce souvenir unique et délicieux. J'en ai bien d'autres où, avec le recul, je me dis, tel jour, Dieu est intervenu en me plaçant dans telle circonstance. Mais ce jour-là, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'agir comme il fallait. Un autre jour, Dieu est intervenu en plaçant sur ma route telle personne. Et cette rencontre m'a tellement surprise, tellement étonnée, que je n'ai pas pensé à dire les mots qu'il aurait fallu. Dans ma vie, il s'est passé tel ou tel événement. Et sur le moment, je n'ai pas compris que Dieu était en train d'intervenir en ma faveur. Ce n'est que beaucoup plus tard que je l'ai compris. Mais pendant tout ce temps, j'ai douté que Dieu prenait soin de moi. Derrière les circonstances imprévues de nos vies, nous discernons la main de Dieu et nous regrettons parfois de ne pas avoir été mieux préparés à cela. Ah, si seulement j'avais pu me préparer, j'aurais fait ou j'aurais dit ce qu'il fallait. J'aurais vécu les choses différemment. Ce sera l'objet de notre méditation ce matin. Comment nous préparer aux interventions de Dieu? Je vous invite, je vous exhorte même fortement à ouvrir vos Bibles en Actes au 12e chapitre, Actes 12. Et voilà dans quel contexte se situe notre passage. L'Église et les chrétiens vivent en paix. Alors bien sûr, il y a toujours une certaine opposition à l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, mais rien ne semble plus pouvoir enrayer les progrès de l'Évangile. Des milliers de Juifs se sont convertis. Même Saul, appelé plus tard Paul, même Saul le persécuteur, est devenu chrétien et défend à présent avec conviction et avec succès l'Évangile. Et même les non-juifs, même des Romains, reconnaissent en Jésus leur Sauveur. Dieu bénit tout cela en accordant son esprit à tous ceux qui se convertissent. Dieu montre sa toute-puissance en faisant des miracles extraordinaires au travers de Pierre. Et même selon Actes 9:31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans une telle situation, quand Dieu bénit tout ce que vous avez entrepris, vous avez vraiment en vous cette conviction. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Rien ne peut s'opposer à la volonté et la puissance de Dieu. Mais soudain, tout bascule. Acte 12, au premier verset. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que faisait l'ange était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Nous arrêtons notre lecture ici. L'Église était en paix. Alors bien sûr, les autorités juives cherchaient à s'opposer à l'annonce de l'Évangile et de nombreuses tensions subsistaient. Mais les difficultés ne surgissent pas du côté des autorités juives comme on s'y serait attendu, mais des autorités romaines. Et l'attaque est soudaine, violente. Verset 1. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et qui est ce Jacques qui est mis à mort ? C'est un apôtre. Et pas n'importe quel apôtre. C'est Jacques, un des trois amis intimes de Jésus, un proche parmi les proches, avec Pierre et Jean. Jacques est assassiné. Et à partir de là, c'est l'engrenage infernal. Les responsables juifs, qui ne semblaient plus être en mesure d'enrayer l'évangile, montrent leur satisfaction pour cette action violente contre les chrétiens. Et Hérode, de son côté, qui n'est jamais parvenu à se faire accepter des juifs, voit en cela une occasion d'obtenir enfin leur faveur. Verset 3. Quand il vit que cela plaisait aux juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Pierre. Pierre à qui Dieu avait parlé en extase. Pierre l'apôtre puissant au travers duquel Dieu réalisait des miracles, guérison de paralytiques, même une résurrection. Voici désormais l'apôtre Pierre, l'apôtre le plus éminent et le plus en vue de tous, prisonnier de Hérode. Les chrétiens ne s'étaient pas préparés à ce soudain changement de situation. Il manquait tellement de préparation que Pierre n'avait même pas pris la précaution de se cacher. Hérode l'a cherché, Hérode l'a trouvé, Hérode l'a jeté en prison. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que Jacques soit assassiné ? Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que Hérode capture Pierre ? Dieu est bien mystérieux parfois. Pierre est en prison et Hérode se donne les moyens de faire en sorte que Pierre ne puisse pas s'évader et que personne ne puisse lui venir en aide. Verset 4. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Une foule est rassemblée à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive, et Hérode attend la fin de cette fête pour condamner et exécuter Pierre devant la foule afin d'obtenir sa faveur. C'est la mort qui attend Pierre. Les chrétiens ont été surpris par la soudaineté et la violence de l'attaque, mais cela n'entame pas leur foi. Bien au contraire. Verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières pour lui, à Dieu. Face à leur désarroi, face à la mort de Jacques, les disciples auraient pu penser que Dieu les avait abandonnés. Mais malgré les circonstances, la foi des disciples demeure. Je suis personnellement souvent étonné de constater que des chrétiens qui traversent des épreuves très dures, des épreuves qui donnent l'impression que Dieu les a abandonnés, eh bien que ces chrétiens continuent à avoir la foi. Comment une femme missionnaire en Inde, dont le mari et les deux enfants en bas âge ont été brûlés vifs en raison de leur foi par des extrémistes hindous, comment cette femme peut-elle, au travers du monde, continuer à proclamer l'amour et la grâce de Dieu? Actuellement, le CEL, la mission chrétienne, estime qu'à peu près un tiers des lieux qui étaient des foyers pour enfants, pour orphelins, pour enfants en tout cas qui n'avaient ni éducation ni soins, qu'à peu près un tiers des foyers en Haïti ont été détruits par le tremblement de terre. Comment les chrétiens de Haïti, qui ont tout perdu, dont la famille est décimée, peuvent-ils encore trouver en Dieu leur soutien ? Extérieurement, on se dit, mais comment font-ils pour continuer à faire confiance à Dieu ? Extérieurement, on ne le comprend pas, et c'est normal, parce que la foi est avant tout une disposition non pas extérieure, mais intérieure. La foi est un don de Dieu. Philippiens 1, 29, « Il vous a été fait la grâce de croire en Christ. » Et parce que la foi est un don de Dieu, Dieu a promis qu'il n'y aurait aucune circonstance extérieure de notre vie qui pourrait nous faire perdre notre foi. 1 Pierre 1,5 « Vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut. » Nous ne sommes pas toujours préparés aux difficultés de la vie. Dieu n'a pas dit qu'il nous protégerait de toute détresse, mais notre Dieu nous a promis que même dans la détresse la plus profonde, nous pourrions trouver par la foi un secours en Dieu. En raison des circonstances, notre foi peut sembler vacillante, mais ce ne sont pas ces circonstances qui parviendront à éteindre notre foi. Alors bien sûr, il appartient à chacun d'entretenir et de développer sa foi, mais aucune circonstance extérieure ne sera suffisante pour nous faire perdre notre foi, parce que Dieu y veille personnellement. Nous sommes dans la crainte d'une épreuve trop lourde pour nous. Nous sommes dans la crainte que cela ne fasse perdre notre foi qui nous unit à Dieu. Romains 8 se fait le porte-parole de cette crainte. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Et face à cette crainte, voici la réponse. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Malgré leur détresse, malgré leur désarroi, malgré leurs questions restées sans réponse, les disciples ont encore cette foi qui les pousse à se tourner vers Dieu afin de le prier ardemment pour qu'il intervienne en faveur de Pierre. La fête juive de la Pâque dure 7 jours. On ignore à quel moment précis Pierre a été arrêté. Mais en tout cas, le temps passe et la fête vient de se terminer. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Pierre doit mourir le lendemain et Pierre dort. Pierre était-il épuisé? C'est possible, on ne sait pas ce qu'il a connu en prison. Peut-être que Pierre était tout simplement en paix. En effet, Jésus lui avait dit qu'il connaîtrait la vieillesse. Une vieillesse difficile, mais en tout cas, qu'il ne mourrait pas jeune. Jean 21, 18, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il lui dit, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Si Pierre se souvient de cette parole, alors Pierre sait qu'il ne mourra pas le lendemain. Ce qui n'empêche pas le lendemain d'être peut-être très difficile. En tout cas, Pierre dort. Et soudain, c'est un miracle. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez un miracle. Moi, personnellement, un miracle, j'imagine que c'est un moment solennel. C'est grandiose. C'est Dieu qui vient et qui intervient de façon extraordinaire dans sa création. Mais la façon dont se déroule ce miracle, la façon dont cela nous est rapporté, fait plutôt penser à une parodie qu'à une situation solennelle. Verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si je dors et que d'un seul coup, quelqu'un allume, cela me réveille, surtout si la lumière est forte. Mais pas Pierre. L'ange est là et Pierre dort. Heureusement, nous ne sommes pas seulement en présence d'un ange lumineux, nous sommes également en présence d'un ange énergique. Il secoue Pierre. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté de lui, au côté, et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Maintenant Pierre est réveillé et il n'est plus enchaîné. Alors, que fait Pierre? Il se prépare à sortir? Eh bien non. Pierre ne fait rien. Il ne bouge pas. Il ne se bouge pas. C'est l'ange qui doit lui dire de se préparer à sortir. Verset 8, l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi !» Par son manque de réactivité, Pierre montre qu'il ne s'était pas préparé à cette intervention miraculeuse de Dieu. Alors bien sûr, par définition, un miracle est imprévisible. Mais Pierre, qui lui-même avait vu et fait tant de miracles, aurait au moins pu s'attendre à ce que Dieu intervienne en sa faveur. Mais Pierre ne semble pas s'être préparé à cela, à tel point qu'il ne croit pas que ce qui est en train de se passer est bien réel. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première porte de garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. C'est seulement une fois dans la rue que Pierre réalise enfin que le Seigneur est vraiment venu le délivrer. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Lorsque nous ne sommes pas préparés à ce que Dieu intervienne dans nos vies, nous sommes parfois longs à réagir. Dieu est là, Dieu veut que l'on se lève et qu'on le suive, mais dans notre tête, le déclic ne se produit pas. Nous ne nous sommes pas préparés à cela. Pourtant, est-il tellement étonnant que Dieu intervienne en notre faveur? Naoum 1:7, l'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient en lui. En Jésus-Christ, Dieu nous a prouvé son amour. Dieu prend soin de nous. Mais parfois, nous n'en avons pas conscience et nous réalisons seulement après coup que ce qui nous est arrivé correspondait à l'intervention de Dieu en notre faveur. C'est seulement plus tard et avec du recul que nous voyons la main aimante et puissante de Dieu sur nous. Quel dommage que nous n'ayons pas réalisé sur le moment ce que Dieu était en train d'accomplir. Au lieu de la tourmente ou de l'indifférence, notre cœur aurait été soulagé et réjoui de constater que Dieu intervenait dans notre vie. Pierre n'était pas préparé à sa libération. Il n'avait donc pas anticipé ce qu'il devait faire. Aussi, il prend le temps de réfléchir à la meilleure conduite à tenir. Après réflexion, Pierre décide d'aller à la maison de Marie, la mère de Jean. Alors ce Jean, surnommé Marc, et on le trouve aussi par ailleurs des fois appelé Jean-Marc, c'est le cousin de Barnabas. C'est le collaborateur de Paul qui a écrit ce que nous appelons l'évangile de Marc. Pierre espère trouver chez la mère de Jean-Marc quelques disciples. Et il a raison, car les disciples sont nombreux à s'être réunis en ce lieu. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante, appelée Rhode, s'approcha pour écouter. Cette servante connaissait et aimait visiblement Pierre, car elle reconnut la voix de Pierre. Et la servante éclate de joie en réalisant que Pierre est vivant libre et à la porte. Mais cette servante ne s'était pas préparée à ce que Pierre se présente à la porte. Et elle en oublie l'essentiel. C'est la servante, c'est son travail d'ouvrir la porte aux visiteurs qui sont les bienvenus. Mais à cette occasion précise, elle oublie de le faire. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Lorsque nous ne sommes pas préparés à ce que Dieu intervienne au travers d'événements surprenants, nos émotions prennent parfois le dessus. Submergés par nos émotions, nous oublions complètement d'agir. Nous sommes comme paralysés. Ou alors, sur le coup de nos émotions, notre réaction n'est pas approprié. Rhode, la servante, est dans la joie, et sa joie est tellement débordante qu'elle s'empresse d'aller la faire déborder auprès des autres disciples. C'est formidable de partager avec les frères et sœurs les merveilles que Dieu accomplit, mais nous ne devons pas pour autant oublier de faire ce que nous devons. Imaginez ce qui se serait passé pour le pauvre Pierre, si une patrouille était passée par là, pendant que la servante partageait sa joie avec les autres disciples. Nos émotions ne doivent pas remplacer nos actions, mais nos émotions doivent accompagner nos actions. Mais cela est d'autant plus difficile si nous ne sommes pas, ou si nous sommes mal préparés aux interventions de Dieu. Je me suis perdu dans mes notes. La difficulté, c'est que la volonté, les intentions et la personnalité de Dieu, ça, nous pouvons les connaître. Je suis vraiment perdu dans mes notes. Voilà, je me disais, mais c'est bizarre, mais moi, j'arrive pas à retrouver mon fil. Oui, donc, oui. La difficulté, c'est que par rapport à nos émotions ou par rapport à n'importe quel événement, comment nous préparer ? En tant que chrétiens, à quoi sommes-nous préparés de la part de Dieu ? En tant que chrétiens, nous connaissons Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, c'est même ce qui caractérise les chrétiens. Hébreux 8:11, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Nous connaissons Dieu, ça c'est vrai. Dans sa grâce, Dieu s'est révélé à nous et maintenant, nous le connaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais connaître Dieu ne signifie pas que nous sommes en mesure de comprendre ou d'anticiper tout ce que Dieu fait ou fera. Jamais nous ne serons en mesure de connaître tout ce que Dieu fait ou fera. Notre Dieu est bien trop grand. Ésaïe 55:9. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, vos voix, mes voix, sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées, bien au-dessus de vos pensées. Nous ne connaîtrons pas tout, mais pire, bien des interventions de Dieu, de notre Dieu, nous paraîtront incompréhensibles. Romains 11, 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le terme est fort. Dieu, lui seul, connaît tout. Mais pour nous, l'ensemble des jugements et des voies de Dieu demeure incompréhensible. Cela signifie que nous ne pourrons jamais comprendre, deviner et encore moins anticiper toutes les interventions de Dieu. La volonté et les intentions de Dieu, ainsi que sa personnalité, ça, nous pouvons les connaître. Mais la manière d'agir de Dieu et ses interventions dans notre monde, ça, nous ne sommes pas en mesure de les prévoir. Sur ce plan-là, notre Dieu est imprévisible. Cela peut nous sembler insécurisant Mais nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans une boîte qui est faite à notre mesure. Notre préparation spirituelle ne doit pas consister à imaginer à l'avance tout ce que Dieu peut faire ou fera. Nous en sommes incapables. Et forcément, nous nous tromperons dans nos prévisions et cela ne pourra que nous déstabiliser davantage. Seul notre Dieu sait de quoi sera fait demain. À nous, ces choses sont cachées et n'appartiennent qu'à Dieu. Deutéronome 29-28, les choses cachées sont pour l'Éternel, pas pour nous, elles sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Ce qui est pour nous, c'est tout ce que Dieu nous a révélé, tout ce que Dieu nous a révélé sur lui-même. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu connaît toutes choses. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu intervient dans sa création. Dieu ne permettra pas qu'un événement quel qu'il soit nous arrache à son amour. Connaître Dieu et nous souvenir de qui il est vraiment en tout temps, à toute occasion. Voilà notre meilleure préparation pour vivre dans ce monde où tant de choses nous étonnent et nous échappent. Amen. Alors peut-être, j'espère que vous vous posez la question, mais que devient Pierre dans tout cela? Alors pour l'instant, Pierre, il est toujours à la porte. Et c'est là que nous le laisserons jusqu'à la semaine prochaine. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous accompagnerons Pierre à l'intérieur de la maison. Et là, nous découvrirons bien d'autres choses surprenantes de la part des disciples, cette fois-ci.